Hello, salut, comment ça va?
Comment vas-tu bien la planète? Le podcast qui prend la température du monde. Depuis 2020, le monde connaît une pandémie nous invitant avec insistance à penser le monde d'après. Et si ce monde d'après était déjà là, au travers d'hommes, de femmes, humanitaires, missionnaires ou expatriés, qui chaque jour, aux quatre coins de la planète, vivent et s'engagent pour rendre notre monde plus soutenable? Dans chaque épisode, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre d'une personnalité, d'un pays, d'une culture, d'un regard, d'une action en faveur des 17 objectifs du développement durable de l'agenda 2030. Dans ce temps pandémique si singulier qui s'inscrit déjà dans les livres d'histoire, nous vous invitons à prendre la température du monde et à devenir acteur du changement. Je suis Patrick Longchamp, journaliste. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète?
Hello, salut, comment ça va?
Saison 3, épisode 4, comment accompagner l'innovation sociétale et territoriale.
Hello, salut, comment ça va?
Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment vas-tu bien la planète, consacré cette fois-ci à une question importante qui est l'innovation sociétale dans nos territoires. En effet, il est bien de parler du faire alliance, il est bien de montrer les dispositifs qui existent, comment les entreprises, comment le monde académique, comment les territoires peuvent s'engager dans le faire alliance, mais comment innover en s'alliant? C'est toute la question que l'on va se poser avec nos trois invités que je vous présente rapidement. Tout d'abord, Frédéric Lemonnier, qui est délégué général de la fondation GRDF, partenaire aussi du fonds ODD17, mais c'est bien au nom de la fondation que vous intervenez aujourd'hui. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous.
Et puis avec nous, toujours par les biais du numérique, j'ai la joie de recevoir aussi Adrien de Combrugge, responsable des investissements Care Impact à la direction des investissements de la Banque des Territoires. Bonjour à vous Adrien.
Bonjour.
Et puis celui qui nous réunit, hein, puisque nos quatre derniers épisodes étaient en partenariat avec le Rameau, eh bien, j'ai la joie d'accueillir Charles-Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau, laboratoire d'innovation sociétale. Bonjour à vous Charles-Benoît.
Bonjour Patrick.
Et aujourd'hui, vous allez parler non pas au nom du Rameau, mais au nom du fonds ODD17. Et on essaiera de comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Alors, comme je le disais en introduction, on a évoqué dans les épisodes précédents la place du faire alliance dans les territoires et comment les entreprises peuvent prendre leur place, quelle place pour le monde académique et comment les stratégies d'alliance peuvent être des atouts et des partenariats gagnants pour les stratégies de territoire. Et on clôt ce quadriptyque quasiment avec une question importante. C'est l'innovation territoriale, l'innovation sociétale. Comment est-ce qu'elle est accompagnée? Comment est-ce qu'elle est financée? Parce que quand on a parlé de ces trois premiers piliers, il y a un quatrième qui est extrêmement important, c'est l'accompagnement et le financement. Alors, peut-être pour commencer, si vous voulez bien, on va peut-être essayer de poser des définitions. On va peut-être demander peut-être à celui qui est le plus académique de tous de nous évoquer chacun là où vous êtes, ce qu'on entend par innovation. Alors, du point de vue du fonds ODD17, Charles Benoît, quelle définition on donne à la notion d'innovation sociétale?
Eh bien, l'innovation sociétale, c'est finalement celle qui associe l'innovation sociale, telle qu'elle a été définie par la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, avec l'innovation territoriale, c'est-à-dire celle qui se réinvente en fonction du territoire. Pour donner une comparaison, c'est comme un pinot noir qu'on planterait en Alsace, en Bourgogne et en Champagne. C'est le même pinot noir, donc c'est la même innovation, mais le fait qu'elle soit réimplantée territorialement en fait trois logiques, trois solutions radicalement différentes. C'est ça la solution sociétale, celle qui a à la fois un cadre commun, mais qui se réinvente territoire par territoire.
Et alors, Frédéric Lemonnier, vous, du côté de GRDF, enfin en tout cas de la Fondation GRDF, quand on parle d'innovation, on parle de quoi exactement?
Mais finalement, du côté de la Fondation, on a une définition qui est assez proche de celle que Charles Benoît vient d'évoquer. Pour nous, une innovation sociétale, c'est un projet, une initiative qui vise à transformer des pratiques habituelles sur une thématique, une problématique identifiée et qui embarque une dynamique de coopération, d'alliance et d'alliance située dans un territoire avec la dimension de prise en compte de la singularité de ce territoire. Voilà, pour nous, ce qui définit une innovation L'innovation sociétale.
L'innovation sociétale. Et alors, pour la Banque des Territoires, bon, bien évidemment, on peut supposer que la définition est à peu près la même, mais l'innovation sociétale, quand on l'apprend par le biais de la Banque des Territoires, Adrien, de quelle manière on peut la définir ?
Eh bien, je partage évidemment tout ce qui vient d'être dit et qui trouve un écho tout à fait pertinent quand on se met à la place de l'action de la Banque des Territoires. En effet, une innovation est liée à son territoire. Quelque chose qui peut paraître peut-être banal sur certains territoires peut répondre à une véritable carence, un véritable enjeu sur un territoire donné et peut représenter une véritable innovation. Mmh. Du coup, en tant qu'investisseur dans des entreprises à impact social, l'innovation sociétale, on l'aborde aussi sous l'angle répondre à une carence sociale par l'entreprise. Ce qui est relativement innovant, puisque si on part d'une carence, c'est qu'il y a un enjeu à relever et que l'entreprise, par son innovation, arrive à y répondre.
Alors justement, la Banque des Territoires intervient à quel moment, Adrien, pour venir accompagner le territoire ? Vous parliez d'investissement, donc d'investissement, ils peuvent être directs, ils peuvent être indirects ?
Exactement. Notre panel d'outils est très large, parce que nous sommes avant tout un acteur de place, un acteur d'écosystème. Pour ma part, j'interviens en fonds propres, en investissement direct dans des entreprises à impact social, mais à mes côtés, pour soutenir l'innovation dans les territoires, nous avons aussi des équipes qui investissent dans des fonds, des sociétés de financement, ce qui fait une deuxième manière d'intervenir en soutenant d'autres acteurs financiers à nos côtés. Mmh. Mais aux côtés de nos actions financières, il y a aussi toute la dimension accompagnement des territoires en ingénierie, en conseil des acteurs de territoire, dont les collectivités territoriales, mais aussi en accompagnement des entreprises qui portent une forte utilité sociale et qui sont, à nos yeux, importantes pour la nation.
Alors, ça veut dire quoi, intervenir sur investir dans des entreprises à impact social ? On voit bien ce qu'est une entreprise à impact social dans nos territoires, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles viennent frapper à votre porte en disant « on a besoin de financement » ou est-ce que ça veut dire que, de par votre capacité aujourd'hui à la Banque des Territoires de pouvoir auditer ceci, vous êtes en capacité de faire des appels à projets pour le territoire pour financer des entreprises à impact ?
Alors, il y a un certain nombre d'entreprises qui viennent nous voir, qui connaissent notre offre. Mais la réalité, c'est que la plupart des entreprises ne connaissent pas encore assez notre capacité à agir. Pour beaucoup, nous sommes encore une grande institution avec un I majuscule. Et vraiment, sincèrement, je pense que nous semblons encore trop loin de certains entrepreneurs. Et c'est le travail que je mène avec mon équipe de faire connaître notre offre, de faire connaître l'avantage d'avoir la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires à son capital. Et donc, c'est ce qu'on appelle le sourcing. Et donc, pour nous, l'activité de sourcing, trouver des bons projets, parfois de territoire, parfois déjà d'ampleur nationale, trouver de bonnes entreprises anime une bonne partie de nos journées.
Est-ce que vous pouvez dire exactement, Adrien, pourquoi il y a cette méconnaissance de cette compétence que vous avez ? C'est parce que trop longtemps, vous avez été assimilé, et vous l'êtes encore d'ailleurs, de par les statuts, à une banque nationale, à un levier de l'État ?
Exactement. Un levier de l'État, je ne suis pas sûr. Beaucoup d'acteurs économiques, beaucoup d'acteurs public, politique, de territoire ont saisi depuis bien longtemps notre dissociation avec l'État, mais au service des politiques publiques. Mmh. Cependant, là où je vous rejoins, c'est que pendant très longtemps, la Caisse des dépôts n'agissait que à travers de grandes politiques entre institutionnelles ou entre grands acteurs, entre guillemets. Notre stratégie d'intervention auprès des entreprises en direct, en prise avec le réel sur le terrain, est en fin de compte, relativement récente. Mmh, mmh.
Charles Benoît, le fonds ODD-17, alors il y a le rameau, il y a le fonds ODD-17. Le fonds ODD-17, comment est-ce qu'il intervient, lui, sur cette question de l'innovation sociétale dans les territoires et comment est-ce qu'il agit pour être au plus près des territoires ?
Alors, il faut peut-être déjà rappeler en un instant son émergence, en fait. Hein. Vous l'avez rappelé, le rameau est un laboratoire d'innovation partenariale et nous avons co-présidé la mission ministérielle que Gabriel Attal avait lancée pour accélérer les alliances d'intérêt général au niveau territorial entre associations, collectivités et entreprises. Et c'est dans ce cadre que le fonds ODD-17 a été créé en 2020, à la fois pour financer les 21 mesures de la mission ministérielle et de la feuille de route qui en découlait, mais aussi pour expérimenter autour de 50 innovations territoriales ce que pouvait être cette ingénierie du premier kilomètre des besoins, c'est-à-dire cette ingénierie d'alliance qui est aujourd'hui en émergence en France. Alors, comment agir très concrètement à travers cela ? Eh bien, trois axes ont été développés. D'abord, investir dans cette innovation territoriale directement, dans cette ingénierie du premier kilomètre des besoins. Je peux citer, par exemple, l'émergence de fondations territoriales, comme celle de Nantes, la fondation territoriale du 44. On peut aussi participer à l'émergence de PTCE. Je pense notamment à celui Ciel à Montargis, qui est né à l'initiative d'une association d'entreprises qui ont voulu co-construire avec leur territoire des solutions économiques sur leur territoire. On peut penser enfin au labo des partenariats de Strasbourg à travers un tiers-lieu aussi magnifique que la Tour Merveilleuse au plein cœur du parc naturel urbain de Strasbourg. Bref, comment est-ce qu'on investit concrètement dans cette ingénierie locale qui incarne la volonté de répondre ensemble aux enjeux du territoire. Le deuxième levier, c'est d'investir dans les communs de données et de méthodes. Je citerai deux exemples. C'est ainsi que a été créée la plateforme odd17.org, qui est une forme de back-office partagé sur les données, les outils, les méthodes qui existent au service des territoires et des organisations pour faire alliance. Et un autre exemple, nous avons avec la ministre Prisca Thévenot, lors du dernier forum national des associations et des fondations, lancé la plateforme trajectoire socio-économique pour aider très concrètement les acteurs, alliances et acteurs d'intérêt général à pouvoir faire. Et le dernier point, et je m'arrêterai là, dernier axe d'investissement qui est très important aussi, c'est d'investir dans cette infrastructure commune. On peut penser à la Fondation des territoires que vous avez reçue lors de votre dernier podcast, le réseau des 350 catalyseurs territoriaux ou encore l'Observatoire des partenariats que nous avons créé avec la Caisse des dépôts en 2008. L'objet étant, dans tous les cas, de donner des moyens de consolider les fonds propres pour pouvoir être en vraie capacité d'investir dans ce co-construire des solutions qui répondent aux transitions d'aujourd'hui.
Alors j'ai envie de poser une question peut-être un petit peu taquine, Charles-Benoît Hetzig. Toutes ces plateformes trajectoires socio-économiques, bon, elle est toute récente, mais la plateforme DD17, est-ce que ce sont des plateformes que les territoires, dont les territoires s'emparent et utilisent ? Parce qu'on a le sentiment, et ça rejoint peut-être un peu ce que disait Adrien il y a quelques instants, c'est qu'on a beaucoup d'outils qui sont performants, mais parfois il faut arriver à les faire connaître parce que les territoires n'en ont pas connaissance.
Alors vous citez ces deux outils, ils sont très intéressants parce qu'ils sont diamétralement opposés. La plateforme odd17.org, c'est un outil pour les réseaux, qu'ils soient publics ou privés, et donc c'est là où chacun va pouvoir utiliser la connaissance commune qui est capitalisée pour faire sa propre communication. Donc, il ne s'agit pas, quelque part, que tout le monde aille accéder à odd17.org. C'est bien lorsque l'on est un acteur institutionnel, lorsqu'on est une tête de réseau, lorsqu'on est une fédération professionnelle, pouvoir aller constituer son propre parcours d'usage en fonction des besoins.
Donc, les bénéficiaires, Charles-Benoît, je vous coupe, mais les bénéficiaires, ça va être quoi ? Ça va être les CCI,
ça va être... Fédération professionnelle, ça va être les services de l'État, ça va être les collectivités type région qui peuvent inventer avec leurs acteurs locaux finalement les besoins qui correspondent à leurs services. Et ce qui est intéressant, c'est que justement un des exemples applicatifs, c'est ce que nous avons fait avec l'administration centrale de la jeunesse et de la vie associative, avec la JEVA, où nous avons co-construit cet outil trajectoire socio-économique qui, pendant 10 ans, a été testé dans le secteur de l'environnement et dans lequel, avec la ministre, le 18 octobre dernier, nous en avons fait un outil commun entre les secteurs, entre les territoires. Et là, on est vraiment dans de l'applicatif, c'est-à-dire quand le ministère de l'Éducation nationale crée un outil pour favoriser le fait que les acteurs de terrain puissent s'en servir directement. Donc on a vraiment les deux natures d'outils, ceux qui sont pour finalement capitaliser entre acteurs qui eux-mêmes vont réutiliser pour transformer cela en parcours d'usage, et ceux qui sont directement pour l'usage des associations, des entreprises, des collectivités territoriales. Et on a déjà de très très bons retours de trajectoires socio-économiques, puisqu'il y a un vrai besoin aujourd'hui d'avoir des outils directement applicables en fonction de la maturité, bien évidemment, des acteurs. Et là encore, dernier point très important, il est très important de concevoir ces plateformes en ayant des niveaux de maturité différents. Bien évidemment, si je découvre un sujet, ça n'est pas la même chose que si je suis un décideur qui souhaite m'engager dans la dynamique, et encore très différent d'un expert qui souhaite mettre en place ou accompagner cette dynamique-là. C'est vraiment toute cette réflexion-là qui est l'aboutissement de plus de 7 ans de travail qui a été permis de, à partir de la capitalisation de l'action de terrain, vraiment de situations vécues, d'en faire un outil en commun.
Alors Frédéric Lemonnier, vous, la Fondation GRDF, vous avez cette particularité d'être vraiment ancré dans les territoires. Hein. C'est contrairement peut-être à d'autres fédérations ou de fondations qui sont plutôt pilotées par une équipe nationale et qui va aller financer des projets sur des thématiques. Vous, votre enjeu dès le départ, c'est d'être ancré dans les territoires.
Oui, oui, complètement. Alors, même si la Fondation est pilotée par une équipe nationale.
Mais vous avez des délégués territoriaux et vous êtes au plus près des acteurs de territoire.
Voilà, exactement. Exactement. Et ça, c'est arriver justement à articuler les différentes échelles d'action. C'est un enjeu important et qui nous tient à cœur, puisque dans nos modalités d'intervention et de soutien, d'accompagnement à l'innovation sociétale, on a différents leviers pour agir. Le premier levier, c'est bien évidemment d'apporter un soutien financier, mais pas que. La dimension extra-financière, elle est extrêmement importante. Elle passe par la mise en place d'un parcours d'accompagnement sur mesure qui est co-construit avec chacune des structures qu'on accompagne. Et nous finançons de l'ingénierie de projet. Donc, ça veut dire que le principal objectif, comme on intervient beaucoup en phase de conception, d'expérimentation, d'émergence de projet, c'est vraiment de pouvoir donner aux porteurs de projet et à les structures dont ils font partie, du temps, de la confiance pour que le projet puisse advenir et jouer son rôle au service de l'intérêt général.
Alors, quand on parle de porteurs de projets, c'est des porteurs de projets de tout type, c'est uniquement des associations, ça peut être des entreprises à impact comme ce que finance aujourd'hui la Banque des Territoires, ce sont des entreprises lambda qui se disent nous, on aimerait créer une structure pour être plus performant sur notre démarche RSE. Qui sont ces porteurs de projets, Frédéric Lemonnier ?
Alors, ces porteurs de projets sont des structures qui sont éligibles au mécénat. Donc, nous sommes une fondation abritée par la Fondation de France. Donc, ça veut dire qu'on agit au service de l'intérêt général et qu'on soutient des structures éligibles au mécénat. Ce sont des associations, ça peut être d'autres fondations. Notre périmètre d'action, c'est vraiment celui-là.
Parlez-nous un petit peu de Happy Up. Je crois que c'est un des jolis résultats de la Fondation en termes d'ingénierie, justement.
Alors, Happy Up, c'est un projet qui est porté par une structure qui est basée dans les Landes, à Cap-Breton, et porte un projet complexe de création d'une filière de recyclage et de valorisation des rebuts industriels de cuir à l'échelle régionale, mais avec un potentiel de développement plus large. Et cette structure se trouvait confrontée finalement à une problématique difficile à adresser seule. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en partenariat avec le fonds ODD 17, venu chercher d'autres acteurs de l'accompagnement pour pouvoir adresser la complexité de ce projet et permettre à la structure de développer son innovation sans y laisser la santé, la santé de son modèle et pouvoir finalement consolider à la fois ses activités, son modèle et trouver, alors c'est en cours, trouver le bon modèle socio-économique pour cette innovation et peut-être même une structure juridique autre que celle qui est actuellement
associative,
celle de Happy Up. Voilà, donc ça c'est en cours aussi, donc on ne peut pas préjuger de alors, ce qui est présagé d'ailleurs, de ce qui va être au final résulté de l'accompagnement. Mais voilà, c'est un accompagnement qui a pour but d'aboutir un projet dans les meilleures conditions possibles pour la structure qui le porte.
C'est très très intéressant parce que vous venez de nous donner sur un exemple une illustration parfaite de ce qu'est le faire alliance au niveau de l'innovation sociétale, puisque vous dites nous on a débusqué un projet, le fonds ED17 est venu nous aider pour pouvoir continuer et permettre justement à cette, parce qu'on sait combien le coût de l'innovation c'est la R&D ça coûte cher, ça coûte cher en recherche et développement dans les entreprises, mais aussi sur les territoires. Et alors, peut-être que la dernière pierre, Adrien, comment vous réagissez ? À un moment donné, la Banque des Territoires peut agir si ce projet commence à porter des fruits, peut agir pour venir contribuer à son enracinement territorial ?
Alors, c'est une très bonne question que vous posez là, parce que l'enchaînement des bonnes fées qui se posent sur un projet est fondamental. Nous, côté Banque des Territoires, nous n'intervenons pas tout seuls, nous ne sommes pas la seule solution, et je dis ça parce qu'on n'est pas présent sur toutes les briques. C'est-à-dire qu'on aide les territoires à identifier leurs besoins, leurs bonnes solutions, et donc on est assez présent à travers d'autres métiers qui sont à côté du mien, en ingénierie territoriale. Donc on cofinance des études, on conseille des collectivités territoriales, et d'autres acteurs de territoire. Ensuite, il y a beaucoup de projets qui ont besoin de ce qu'on appelle de la love money, de subventions, de mécénat de compétences. On n'est pas très présent sur cette brique et on intervient plus tard avec des outils financiers comme l'investissement, le financement. Mais cette brique initiale, elle est très importante et je constate qu'à nos côtés, il y a pas mal d'acteurs, notamment évidemment des fondations, mais aussi de grands groupes qui viennent soutenir ce type de projet. Et ça nous arrive assez régulièrement de venir en investissement dans un projet qui a eu sa R&D financée gratuitement par une fondation dont le projet concourait à sa stratégie, à sa vision, à ses ambitions.
Là, vous êtes tous les trois présents, Frédéric Lemonnier, Charles Benoît, Adrien de Krombrugge. En quoi vous êtes complémentaires, Adrien, avec Frédéric et Charles Benoît ?
Moi, je veux bien commencer à répondre. Allez-y. C'est une vision très personnelle et vous la challengerez.
Allez-y.
Je considère que Charles Benoît, avec le Rameau qu'il a fondé, il est complémentaire parce qu'il a une autre vision du territoire, il a une autre vision des acteurs et il a cette capacité à alimenter la Caisse des dépôts, ce grand paquebot de phénomènes, d'initiatives dont on n'a pas forcément écho ou même si on les voit, on ne les percute pas tout de suite. Et puis, concernant l'activité de Frédéric, c'est un peu ce que j'évoquais dans l'accompagnement sur certaines phases de développement des projets où on a du mal à intervenir. Et on est bien content qu'il y ait des acteurs qui sachent et qui aient les moyens d'intervenir sur des phases peut-être plus jeunes, plus R&D, plus d'accompagnement aussi. Voilà. Donc je vois bien la complémentarité entre nous trois.
Charles Benoît, peut-être des compléments, parce que vous êtes un petit peu le pilote, vous êtes à l'origine de cette réflexion et de cette émergence du Faire Alliance, et on en voit ici toute sa complexité, mais en même temps toute sa beauté, tout son résultat.
Et puis surtout, toute la légitimité de chacun et la complémentarité de tous. Parce que, effectivement, si on reprend le cas d'Happy Up, c'est pas directement l'investissement de la Caisse des dépôts qui a été mobilisé. En revanche, c'est le fait que la Caisse des dépôts ait fait émerger à partir de retour d'expérience qu'avaient fait d'autres investisseurs sur l'accompagnement au changement d'échelle de l'innovation, un autre dispositif, alors désolé pour vos auditeurs, c'est encore un autre fonds, c'est le fonds I cette fois-ci, pour accompagner les projets complexes, et que l'intelligence alliée de la Caisse des dépôts, de l'État, d'AG2R La Mondiale, de Carasso, de Caritas, sur des projets complexes qui permettent de mobiliser une ingénierie, elle aussi complexe, mobilisée avec différents acteurs, eh bien, devient un levier de lien entre la capacité d'expérimentation et de défrichage de l'intérêt général d'une fondation comme celle de GRDF et la capacité d'investissement institutionnel et la force de la caution que peut avoir la Caisse des dépôts. Et ce que je trouve très intéressant dans cette double intervention, c'est on voit bien ce que chacun peut faire et la complémentarité. Lorsque la solution va être expérimentée, lorsqu'elle va avoir produit ses effets, eh bien, il y a la capacité à la Caisse des dépôts d'en faire réellement un dispositif bien plus fort, bien plus large que ce que aucun des acteurs seul peut faire. Si je reprends mon exemple du fonds I, il y a maintenant une décennie, c'était toute l'expérimentation d'AG2R La Mondiale sur l'accompagnement au changement d'échelle que la Caisse des dépôts a permis de pouvoir rendre bien plus opérante et bien plus forte avec un outil de place qui est ce fonds I, avec l'État, avec des fondations différentes, avec les partenaires sociaux. C'est toute cette force-là de la Caisse des dépôts, elle n'a de valeur que si on a des solutions opérantes. Mais c'est les solutions opérantes, il faut les inventer. Et on a dit tout à l'heure que l'importance des territoires était très forte. Et une fondation comme la fondation GRDF, qui a choisi comme cause, non pas une cause thématique, comme souvent l'environnement, l'insertion, le numérique, mais finalement la capacité d'agir sur les territoires, la transversalité de nos territoires, vous voyez bien que là, on a une forme de R&D sociétale, de soutien à la R&D sociétale. Et si on reprend le continuum, finalement, de la racine jusqu'à la capacité à démultiplier, eh bien, la fondation GRDF permet d'expérimenter des choses là où on ne sait pas encore si on va avoir des résultats et de prendre le risque. Et c'est tout le rôle des fondations, très important. Cette année où nous fêtons les 20 ans de la loi Ayagon 2003, ce qui a permis la démultiplication des fondations en France, bien c'est très important ce rôle de défrichage que font les fondations. La capacité de modélisation, et là les dispositifs communs, que ce soit sur le financement, le fonds EDD 17, ou sur l'accompagnement, le fonds I, deviennent très important parce qu'on va mobiliser des intelligences complémentaires. Et puis après, la capacité institutionnelle d'un acteur comme la Caisse des dépôts à en faire des outils de place, eh bien, vous voyez que chacun est à sa juste place, mais que c'est bien ce continuum. Et au-delà de la qualité de l'action de chacun, c'est la capacité à articuler les interactions entre tous. Et peut-être que c'est ça l'intuition qu'avaient les pays du Sud lorsqu'ils ont finalement proposé aux pays du Nord en 2015 d'ajouter ce 17e objectif. Comment allons-nous inventer ensemble ce qu'aucun ne peut faire seul? Ça ne renie pas la valeur de l'action de chacun, ça la relie. Et je crois que ce qui était important ce podcast, c'est voir justement cette liaison de la capacité d'écoute de l'innovation territoriale comme peut faire la Fondation GRDF jusqu'à la capacité de transformer les innovations comme peut faire la Caisse des dépôts.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, Frédéric Lemonnier? Charles Benoît le disait à l'instant, vous êtes vraiment la fondation de terrain et de territoire. Il y en a d'autres qui sont enracinés dans les territoires, il n'y a pas que vous, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour être encore plus performant sur cette stratégie d'alliance dans les territoires, de permettre des partenariats durables et de faire émerger de l'innovation sociétale? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous dites « ça manque et Dieu sait si on en aurait besoin
» C'est une question difficile parce que...
Il manque trop de choses.
Il manque. Non, pas tant que ça. On expérimente. Moi, je crois beaucoup à l'action collective, vous l'imaginez bien. Et on expérimente pas mal de choses en collectif et avec d'autres fondations, d'autres acteurs. Et on se rend compte que c'est un cheminement de co-construire. Jouer collectif, ça implique de co-construire, de se donner le temps de pouvoir cheminer ensemble et d'inventer un chemin ensemble. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage dans la durée et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une pratique dont tous les acteurs dans la philanthropie n'ont pas forcément l'habitude. Mmh. Donc voilà, je pense que...
Qu'est-ce que vous voulez dire, Frédéric Lemonnier ? Ça veut dire que vous êtes un peu comme dans Jacques Brel, un point à l'envers, un point à l'endroit, un point... chacun ses pauvres et surtout, ne nous les échangeons pas.
Oh non, je ne serais pas aussi... Non, je serais pas aussi négative. Non, je trouve qu'il y a, une vraie envie et une vraie appétence pour ces logiques de coopération et d'alliance entre fondations. Mmh. Je pense qu'il y a une vraie envie, et de plus en plus. Mmh. Simplement, ça nécessite un cheminement, un apprentissage, ça nécessite une acculturation au sujet, pas que des équipes des fondations, mais aussi de leur gouvernance. Mmh. Et c'est ce travail-là, finalement, qui est entrepris hein, déjà depuis quelques temps, qui est en train de monter en puissance, parce que ces logiques d'alliance, elles prennent une acuité de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on voit les enjeux et l'importance des enjeux auxquels on est confronté. Et on voit bien que seul, aujourd'hui, personne n'a la réponse, que c'est collectivement qu'on va inventer les réponses et qu'on va être plus pertinent.
Aujourd'hui, Charles Benoît, on peut dire que c'est la Fondation Territoriale de Loire-Atlantique qui fait œuvre un petit peu de tête de pont sur cette capacité.
Alors, je ne parlais pas de tête de pont parce qu'en fait, il n'y a pas de tête de pont.
Il n'y a pas de tête de pont, mais en fait, il fait un peu
par territoire.
Ouais.
Hein. Et on voit bien que le réseau des fondations territoriales, qui est animé aujourd'hui par la Fondation de Lille, a dans les fondations territoriales des réponses extrêmement différentes. Et c'est ça, je crois, dont il faut qu'on s'habitue. Mmh. C'est moins d'aller chercher quel est le modèle le plus performant pour se dire quelle est la diversité des modèles pour être plus pertinent. Mmh. Et je rappelle, pour répondre un peu dans la continuité de Frédéric Lemonnier à votre question, je rappelle d'abord qu'on a une étude d'impact du Faire Alliance en France, hein, qui est représentative à l'ensemble de nos 13 régions métropolitaines, qui montre effectivement exactement ce que vient de dire Frédéric Lemonnier, c'est qu'il y a une envie de faire alliance, mais il y a une reconnaissance qu'on ne sait pas comment faire. Mmh. Que ce soit les citoyens, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants associatifs, les élus locaux qui ont été questionnés, les acteurs académiques, tout ça ont été questionnés avec des travaux qui ont été menés avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Et d'ailleurs, nous allons publier le 21 décembre le troisième cahier de recherche qui s'intitulera ODD 17 économie et territoire au pluriel, pour montrer finalement que la diversité de ce qui se fait aujourd'hui est un élément qui montre bien que nous sommes en cours de l'invention. Mmh. On n'est pas en retard, on est en cours. Et il y a deux piliers néanmoins essentiels et sur lesquels il faut appuyer, qui ont été très clairement évoqués dans la feuille de route ministérielle que j'ai eu le plaisir de co-présider durant 3 ans. D'abord, c'est cette fameux financement de l'ingénierie du premier kilomètre des besoins, et c'est tout le sens du fonds ODD 17. C'est pour ça qu'après une quadruple évaluation, après l'expérimentation 2020-2022, où nous avions investi 3 millions d'euros dans cette ingénierie d'alliance, on s'est réengagé sur 2023-2025, parce que si nous ne finançons pas ce premier kilomètre des besoins, et je vous invite à revoir ou à écouter le podcast que vous avez fait sur les collectivités territoriales à l'occasion du lancement du Vademecum de la NPP Territoire de Projet sur cette coopération territoriale, nous devons finalement financer ce premier kilomètre des besoins, le fameux 1% d'ingénierie qu'a réclamé la NPP Territoire de Projet. Et le deuxième élément structurant, c'est le cadre juridique. Ne nions pas que nous avons une difficulté juridique qui, elle aussi, a été particulièrement bien définie dans le cadre de la mission ministérielle et la proposition de loi qui a été déposée au Parlement dans ce cadre-là. Pourquoi ? Parce que nous avons un droit de l'alliance en France, nous avons un droit en France qui est un droit de la protection de la personne, qu'elle soit physique ou morale. Donc, dès qu'il y a alliance, notre droit français considère que c'est un risque. Et là encore, nous devons innover dans la logique juridique. Donc, quelque part, il nous faut observer ce qui se passe sur les territoires, premier élément, parce que c'est là où s'inventent les solutions de demain. Il nous faut inventer dans les outils financiers pour financer cette ingénierie du premier kilomètre des besoins. Il nous faut inventer dans notre cadre juridique qui nous permet de pouvoir accompagner ces démarches. Et c'est vrai que si, comme le dit le président de la Fondation des Territoires, Jean-Paul Delevoye, l'innovation, c'est une désobéissance qui réussit, il nous faut quand même encadrer cette désobéissance
par la loi.
Et c'est bien la proposition de loi sur l'expérimentation d'un droit d'alliance d'intérêt général.
Donc pour vous, il y a encore ce levier sur lequel il faut agir. Et pour vous, Adrien, du point de vue de la Banque des Territoires, on a bien entendu qu'un de vos grands enjeux, c'était de mieux vous faire connaître dans les territoires sur votre capacité d'accompagnement et d'investissement. Mais s'il y avait, quel est pour vous le levier qu'il faudrait actionner et qui manque aujourd'hui pour démultiplier un peu votre action ?
Alors, il y a plusieurs leviers, notamment, je pourrais évoquer à nouveau les investisseurs, les financeurs de la période d'émergence et des premiers développements des projets d'innovation sociale. C'est un moment dans la vie des projets qui est risqué, plein d'embûches, et donc on manque de financeurs, d'investisseurs, même à nos côtés. Et puis, un élément qui est très important et qu'on doit aussi développer, c'est la continuité et la synergie entre les différents acteurs. On a beaucoup travaillé ce sujet à la Banque des Territoires, on l'a beaucoup travaillé notamment et aussi avec le Rameau sur mieux articuler, mieux se faire comprendre entre investisseurs, accompagnateurs et mieux articuler l'enchaînement des différents acteurs qui sont nécessaires. Je donne un exemple, par exemple.
Allez-y.
C'était assez saisissant et flagrant, peut-être il y a un an ou deux dans nos travaux, en réunissant à nos côtés l'écosystème du financement, de l'investissement et l'écosystème des accompagnateurs, de voir à quel point les mots n'étaient pas les mêmes, les enjeux n'étaient pas les mêmes, alors qu'il y a des points communs, des moments de rencontre. Par exemple, l'accompagnateur qui accompagne un projet doit aussi aider son financement, aider la levée de fonds, trouver les moyens de son financement, de son développement. Et en fait, c'était assez saisissant de voir à quel point nos travaux, nos moments de rencontre étaient pertinents et ont pu créer des passerelles entre les deux métiers qui doivent identifier leur ligne de mire commune.
Merci beaucoup à tous les trois.
Peut-être un dernier mot quand même.
Un dernier mot, Charles Benoît, bien sûr.
Dans la continuité de ce que vient de dire Adrien, pour souligner que dans le cercle des investisseurs à impact, le dernier cycle était justement sur cette question du lien entre les investisseurs et les territoires, qu'il y a eu un remarquable travail qui a été fait par le réseau FER pour cartographier à la fois la diversité des acteurs d'accompagnement, de formation, les acteurs d'évaluation, les acteurs académiques sur le sujet. Et je vous invite vraiment à regarder cette magnifique travail de cartographie. Et ce qui est très intéressant, c'est de la regarder aussi à l'échelle d'un territoire pour pouvoir la compléter au niveau de son territoire. Ouais. C'est vraiment un travail remarquable qui a été fait à ce moment-là.
On trouve ça où, Charles Benoît ?
Donc, à s'en saisir.
On trouve ça où, Charles Benoît, exactement, pour nos auditeurs à qui vous venez de mettre l'eau à la bouche ?
On trouve ça, bien sûr, sur la plateforme odd17.org et aussi, bien sûr, sur le site de la Caisse des dépôts et celui de FER. Donc, les trois partenaires ont, bien évidemment, mis en ligne cette magnifique travail de cartographie.
Et puis, si vous voulez retrouver aussi tous les cahiers de recherche, vous pouvez vous rendre, en effet, sur le site de la Caisse des dépôts. Vous tapez « cahiers de recherche » dans Internet, « Banque des dépôts ». Je peux vous assurer que vous y arrivez direct. Ils sont d'une richesse étonnante et très, très, très instructive. Merci Frédéric Lemonnier, merci Charles-Benoît Hetzig, merci Adrien de Krombrugge d'avoir été nos invités de ce « Comment vas-tu bien la planète ?». On vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute des autres podcasts, si c'est le premier que vous écoutez, ou alors eh ben, vous restez dans l'attente du prochain. À très bientôt, au revoir.
Hello, salut, comment ça va ?